Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello, je suis Léa.
Et moi Mathilde.
On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care.
Je suis psychologue clinicienne.
Et moi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question comment ça va
et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis très contente. Très très contente. Vous ne savez pas dans quelles conditions on enregistre cet épisode, mais j'espère que vous allez ressentir cette ambiance à la fois de rire, de proximité et de un peu what the fuck. Voilà, il faut le dire, c'est un mood. Je suis toujours accompagnée de Mathilde.
Toujours là.
Et on reçoit Alison aujourd'hui.
Bonjour.
À notre micro. Alison, t'as une voix très douce, très posée. Pourtant, je t'ai l'air d'être une meuf hyper wild, tu vois. Genre, c'est vrai, hein ?
Oui, c'est vrai. J'ai une voix plus douce et je suis plus posée que mon caractère.
Que je me suis.
Mais après, attention. Ouais. Il y a des moments où je suis pas trop dans la douceur. Ouais.
Est-ce que l'exercice du micro est un truc que t'as... Enfin, je le sais en off, mais pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que tu fais des interviews souvent ou pas ?
Non, très peu souvent. Ça me dérange pas de le faire. Je préfère le micro que la vidéo. J'aime bien déjà l'aventure Tajin Banane, on va peut-être en discuter un peu. C'est plutôt récent, ça fait 3 ans et quelques. Donc en 3 ans, j'ai pas eu beaucoup de temps non plus pour respirer et raconter ma vie. Et surtout pour avoir le temps de raconter des choses, parce qu'il faut un petit peu d'expérience pour ça et... Donc j'ai un peu esquivé. J'ai fait quelques podcasts assez ciblés avant d'accepter le tien, mais qui du coup serait le premier de l'année 2021-2022. Voilà, il me faut un peu de temps pour avoir envie de raconter des choses.
Ouais, hein, je peux comprendre, prendre du recul et tout sur ce qui nous arrive, surtout que t'as un parcours assez fou, je trouve, hein, multiples casquettes, personnalités et tout. Justement, petite question et présentation, mais pas trop classique, comment tes potes te présentent ? Et comment ils expliquent ce que tu fais ? Tu vois, quelqu'un qui n'est pas du tout dans le mood, dans l'univers.
Bah, du coup, mes potes, ils me présentent mieux que je me présente et ils sont encore plus fans de ce que je fais que moi. Donc à chaque fois, ils sont là, mais c'est Alison, t'as une banane, mais tu sais pas et tout, c'est des t-shirts pour les femmes qui sont enceintes. Non, pas tout à fait enceintes. Mais oui, mais des trucs qui s'ouvrent sur le côté comme ça, du coup, tu peux sortir ton boobs partout. Voilà ce qu'ils disent à chaque fois.
J'adore. Mais en fait, ils sont grave dans les valeurs de allaiter partout, tout le temps.
Ouais.
Donc tu es donc entrepreneuse sur Tajin Banane, on aura l'occasion d'en reparler, mais tu es aussi maman, femme, compagne, enfin plein de casquettes, et tu as aussi eu des études, il me semble, dans la santé.
J'étais aide-soignante.
Aide-soignante,
oui.
On aura l'occasion de reparler aussi de ça, parce que c'est fou, j'adore les parcours à multiples facettes comme ça, mais si on revient un peu en arrière, tu étais quel genre d'ado ?
Je crois que j'ai toujours été... la marrante, dans le sens où, tu sais, j'étais la meuf qui avait plein de potes, mais que personne sortait avec moi. Que j'étais trop... Les gens me kiffaient, mais ils sortaient pas avec moi. Ça, c'est un autre débat. Mais non, je pense que j'ai pas le souvenir d'avoir... J'ai toujours été complexée en tant qu'ado. Ça me marque parce que j'ai perdu beaucoup de temps, je pense, et beaucoup d'énergie là-dedans. Complexée par mon poids, complexée par mes cheveux. Complexé par... Tu as toujours un truc à être complexé. J'ai pas l'impression que ça m'a empêché de faire des choses, mais j'étais pas forcément bien dans mes baskets. J'ai toujours aimé l'humour, comme je disais. Je me faisais souvent régulièrement virer de classe parce que je rigolais ou je perturbais les autres. Je montais au charbon, comme je disais. J'aimais bien défendre mes copines ou mes copains ou celles et ceux que je sentais qu'il se passait des choses qui n'étaient pas normales. Ça m'a valu... ça, je l'ai jamais dit.
T'avais un côté militant.
Un peu, mais déjà, sans m'en rendre compte. Déjà. Mal géré.
Mal géré ou pas bien accueilli ?
Ouais, les deux. Les deux, parce qu'il y avait quand même des façons de, je pense, de gérer ce militantisme et apprendre à le faire. Par exemple, je me suis quand même retrouvée virée de tous les collèges, j'en ai fait 3. Je me suis à chaque fois fait virer une semaine. Et à chaque fois que je me faisais virer, c'était parce qu'il y avait soit de l'agressivité, mais pas. C'était toujours hyper. Comment dire ? C'était jamais ma faute, en fait. Il se passait quelque chose de grave où j'entendais. Par exemple, ouais, c'est l'arabe, mais c'était même pas sur moi ou n'importe, ben, ça me rendait ouf et je me levais et je vrillais. Et donc à chaque fois, je me retrouvais avec des lettres, c'est véridique, pour présenter à mes parents que j'étais mise à pied genre pendant 3 jours, et à chaque fois c'était mais bon, on comprend l'attitude d'Alison, mais on est obligé de faire ça et tout. Donc je pense que j'ai mis, et donc ça j'étais super jeune, et j'ai mis du temps à comprendre qu'on pouvait défendre des causes d'une autre manière. Et mais je me suis toujours sentie hyper comment dire,
investie
ou même engagée ou hyper agressée même dans ce que je suis quand quelque chose me faisait du mal.
L'injustice te touche.
Ouais, de ouf.
Mais en même temps, c'est hyper difficile quand t'es ado, notamment, je trouve, et que t'as des revendications, même en fait, juste que tu te positionnes par rapport à certains sujets, de réagir déjà face à l'adulte sans être dans quelque chose qui peut être, tu vois, pris comme de l'agressivité et tout. Parce que je trouve que dans la société, même dans le milieu scolaire, même toujours actuel, hein, y a vachement ce truc-là de supériorité du sachant et de celui qui doit apprendre. Et du coup, quand t'as un positionnement sur un sujet où finalement, là, on parle même pas d'apprentissage ou quoi, c'est juste on est des humains, on est tous égaux, et moi, je vais défendre celui qui, aujourd'hui, est pointé du doigt. Ben, t'as toujours ce positionnement, en fait, hiérarchique, qui te dit, en fait, là, ce que t'es en train de défendre, la façon dont tu fais, c'est pas légitime, donc moi, je te dis que. Et c'est hyper représentatif, et je trouve que, comparé à certains systèmes scolaires où il y a peut-être plus une mise en avant des personnalités à travers des activités genre du théâtre ou des clubs de débat et tout, c'est pas de ouf développé. Et pourtant, punaise, c'est tellement important dans notre société, à un moment donné, de savoir prendre la parole sur des sujets. On le voit encore plus aujourd'hui, être engagé. Je vais pas dire un indispensable parce que j'ai pas envie d'être dans les injonctions, mais c'est quand même quelque chose qui est hyper présent et utile à la société, quoi.
C'est moins négatif que quand t'es au collège, justement, où tu sais pas le gérer. Mais justement, mes parents, eux, ont réussi à gérer ça chez moi, et ont réussi du moins à le faire sortir du côté positif, dans le sens où ils m'ont toujours valorisé dans ce que je pensais. Et même quand je raconte là que je me suis virée 3 jours, c'est limite on pétait le champagne à la maison, et c'est pas grave, quoi. Ouais. Tu l'as mal fait, tu t'es mal exprimé, mais ce que t'as dit, c'était vrai.
Le fond et la forme.
Voilà, on va t'apprendre.
Qui t'a peut-être permis aussi de poursuivre là-dedans et de pas te brimer, de pas te brider plutôt. Ce côté-là.
Ouais, parce qu'au final, aujourd'hui, tu as des engagements que tu traduis complètement autrement et sans te prendre des lettres de mise à pied.
Sans taper personne.
En vrai, c'est hyper important. T'avais une idée à ce moment-là de ce que tu voulais faire plus tard ? Pas du tout.
J'avais plein d'idées. Je voulais être soit prof d'histoire, enfin rien à voir. Je voulais être infirmière, ça c'est sûr. Je savais que je bosserais là-dedans parce que ma grand-mère est infirmière, ma mère est infirmière. C'était un peu la lignée, et puis on parlait tout le temps d'hôpital à la maison et tout. Donc voilà, c'était ma norme. Aucune envie d'entrepreneuriat, bien loin de là même. Et je me souviens me dire, mon Dieu, si je bossais dans un magasin ou dans des fringues, c'est vraiment l'échec. Pas dans le sens où c'est un mauvais métier, mais c'est pas du tout ce qu'il me faut. Je me vois pas être enfermée dans un bureau et tout. Bah, je fais tout ce que je pensais détester faire aujourd'hui. Non, je me voyais dans le soin ou dans la santé. Ouais.
Et du coup, t'as poursuivi là-dedans puisque t'as fait des études.
Oui, j'ai fait mon école d'aide-soignante et j'ai bossé plus d'une dizaine d'années sur différents postes. Un peu moins de 6 ans sur différents postes à l'hôpital.
Et cette période-là, comment toi tu la vivais au niveau de ta santé mentale, notamment parce qu'on sait que c'est des métiers où c'est carrément compliqué. On le sait encore plus, non, il n'y a pas de hiérarchie, mais on va dire qu'en ce moment, on en parle de plus en plus avec tout ce qui se passe et tout. Comment est-ce que toi tu l'as vécu cette période, parce que tu étais du coup baigné dans ce milieu-là, tu vois, depuis toujours, mais j'imagine quand on est dedans. Est-ce que t'as un retour d'expérience au niveau de comment tu l'as géré?
C'était très dur, effectivement. Il y a eu quand même la fin de ce job. Je me suis retrouvée mère célibataire, donc j'ai quitté le papa de mes deux premiers. Là, c'était difficile dans le sens où c'est des métiers où t'as des horaires décalés. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est soit t'es du matin, soit t'es d'après-midi, soit t'es de nuit. Donc qui dit matin, tu commences à 6h, tu finis à 14h. Donc à la limite, ça c'est le mieux, tu peux aller récupérer tes enfants, mais forcément, qui les amène à l'école le matin, donc t'es obligé toujours d'avoir une nounou. Et tu travailles le week-end, et tu dois choisir entre le jour de l'an et Noël, et puis au dernier moment on te rappelle, parce que c'est pas du tout, on n'est pas sur des horaires classiques, on t'appelle un week-end, on t'appelle parce qu'il manque une collègue, et tu retournes au travail alors que t'es en train de, je dis une bêtise et c'est cliché, mais t'es en train de faire le gâteau d'anniversaire, ben non, t'y retournes. Donc ça c'était dur. Je trouve que c'était très fort, et je peux le dire, parce que ça fait 3 ans que je dis souvent régulièrement à mes proches, ça me manque. Et depuis 3 ans, ça me manque toujours de réenfiler une blouse et de retourner au taf. Si bien que je me suis sincèrement posé la question de vouloir faire quelques intérims en mode anonyme, juste aller dans un hosto et faire quelques nuits ou quelques après-midi juste pour retrouver ce métier, quoi. Pour retrouver, je suis sûre que j'ai énormément perdu. Il y a plein de choses que je savais que je ne sais plus. Et il y a des moments où ça me perturbe. Et même dans mon rôle de mère, par exemple, avant, quand j'étais dans des services, donc j'étais dans des services très difficiles. Le dernier en date, c'était un service de neurologie. Et donc, c'est toutes les maladies neuro qu'on connaît, les débuts d'Alzheimer, etc. Mais aussi beaucoup de soins intensifs, donc de personnes qui ont des AVC du jour au lendemain et tout. Et en fait, quand j'y bossais, étrangement, c'était très dur. Donc, il y avait tous les jours presque, ou presque, une personne qui mourait, ou tous les jours des diagnostics affreux qui tombaient sur des gens de tout âge. Mais j'avais pas peur. Et depuis que je bosse plus à l'hôpital, je me rends compte que j'ai des peurs et des, même presque, on peut appeler ça des angoisses qui viennent avec la maternité. Et où j'ai la sensation de, par exemple, quand mon fils va avoir de la fièvre, au lieu de me dire juste il a de la fièvre, c'est ok, il a la grippe, moi dans ma tête, il va me dire, là je dis vraiment un truc hyper personnel que je ressens du manque de mon job, il va me dire j'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, moi je vais tout de suite me dire putain il a de la fièvre, mais là il a saigné du nez hier, mais peut-être qu'il a... Je vais trop loin dans les idées parce que j'ai que des souvenirs en fait, de maladies, de pathologies hyper dures. Et c'est comme si j'avais perdu le goût de allô, hosto, il y a du curatif, quoi. Tu soignes des gens. Mmh. Et moi, j'ai plus ce truc. J'ai juste des bribes de souvenirs un peu négatifs qui restent. Et parfois, je me dis que c'est dommage parce que peut-être qu'il
mais
était...
Mais ça faisait qu'avec tes enfants ou avec... de façon générale...
Qu'avec eux.
Alors, est-ce que c'est pas juste ton cœur de maman qui s'inquiète?
Mais j'étais pas comme ça avant. Ouais, j'étais moins comme ça. C'est juste que je suis plus de ce milieu et que du coup peut-être qu'il y a des choses qui me paraissent après quand je dis des angoisses
peut-être
ça
l'impression
pas
de moins contrôler du coup le fait de plus
il y a plus de contrôle c'est ça il y a plus j'ai juste plus le côté où on en soigne avant quand ils avaient de la fièvre j'étais à l'hôpital tous les jours et pourtant je venais peut-être de sortir d'une pièce où on venait d'apprendre un cancer à la personne mon fils avait de la fièvre le lendemain on s'en fout tu prends un Doliprane tu retournes à l'école quoi et là j'ai plus ce truc je sais pas pourquoi donc peut-être s'il y a un psychologue qui m'écoute il pourrait me dire
Mathilde est psychologue
Coucou.
N'hésite pas Mathilde. Non,
mais c'est de l'anxiété en fait, c'est que t'anticipes et tu fais des scénarios catastrophes et t'essayes de potentiellement résoudre un problème qui n'est pas encore là.
Ouais. Il y a ça et on parle de santé mentale et du coup ça c'est des choses que j'ai commencé à me rendre compte que je... Pas que je développais mais que je gérais pas et d'habitude j'aime bien gérer ce que je fais et ce que je ressens. Et je suis allée voir quelqu'un pour discuter de tout ça il y a 6-8 mois. Je l'ai vu qu'une fois. Et je ne suis pas retournée. Pourtant, j'ai pleuré, ça m'a fait du bien. Et j'ai posé ce que je ressens comme ça, qui est assez négatif pour moi. Et elle m'a dit très justement un peu ce que tu viens de me dire, dans le sens où... Il y a 3 ans, quand j'ai créé Tajine Banane, j'ai eu un épisode assez compliqué où j'ai eu une appendicite en fait enceinte qui est partie en sucette, comme on dit. Donc je me suis fait opérer, réopérer, ouvert le ventre en deux plusieurs fois et je suis passée à côté de la mort bien vénère. Et du coup, je pense qu'il y a un peu cette... c'est ce qui est ressorti de cette conversation. Un peu cette angoisse de mort où je me suis retrouvée avec mon fils et on a failli partir tous les deux. Et ce moment où tout peut basculer. Et je crois que j'ai, par l'aventure Tajine Banane, jamais réglé vraiment ce moment-là, parce que tout s'est enchaîné. Je crois que TB, même pas 6 mois après, s'était lancé. Je touche du bois, mais il y a eu un succès incroyable qui a fait que j'ai pas du tout touché terre à partir du moment où j'ai lancé le compte Instagram et j'ai lancé un t-shirt sur Internet. Depuis, on en a vendu des milliers et j'ai jamais... Je suis toujours passée au-dessus de tout ça. Et puis maintenant, je me dis que je suis heureuse, que tout va bien. Tu as toujours ce truc de, à tout moment, la seule chose qui peut arriver de mal, c'est quelque chose comme ça qui n'est pas contrôlable, puisque le reste, ça va. Mmh. Et c'est ce truc qui me fait peur un peu.
Et je te l'ai... Enfin, comme je t'ai dit tout à l'heure, oui, c'est de l'anxiété. Et en fait, c'est juste qu'à un moment donné, vu que ton cerveau, pour lui, son but dans la vie, c'est d'être toujours bien et en vie, il va de toute façon chercher à contrôler et éviter tout ce qui pourrait entraver cet objectif-là. Et donc du coup on a tendance à anticiper et l'anticipation elle est nécessaire dans le sens où c'est celle qui nous permet de planifier, d'organiser et sur du court terme en tout cas de mettre en place des actions mais sur du très long terme elle peut amener du coup à ce côté là je vais chercher à contrôler ce qui n'est pas contrôlable je vais chercher à anticiper ce qui n'est pas possible d'anticiper, le futur on ne l'anticipe pas et du coup je vais chercher à solutionner des problèmes qui n'existent pas. Et j'ai la sensation que si je me prépare plus à ces problèmes-là, si je les anticipe, si je rumine dessus, le jour où ça va m'arriver, je serai plus prête. Je vais être plus préparée, du coup, je vais mieux réagir que si je ne l'avais pas anticipé. C'est faux. C'est une croyance qu'on a quand on est anxieux. Mais du coup, c'est des ruminations et c'est pour ça que la rumination, elle n'a jamais de fin. C'est que, enfin, qu'on est tout le temps en train d'y penser. Et si jamais, et si, on n'est plus dans la réalité, en fait. On est dans des discours mentaux.
Ouais, surtout si tu dis que, justement, tu as été embarqué dans une toute autre tu vois, sphère de ta vie qui est complètement dans un contexte différent que celui que tu as connu en tant qu'aide-soignante. Et avec l'événement qui t'est arrivé, qui a dû être hyper difficile, traumatisant, qui était complètement lié à ce contexte là. Ouais, des fois c'est difficile de, tu vois, de s'y retrouver. En plus, quand on devient maman, il y a quand même un truc où, bien sûr, quand t'es dans le soin toute la journée, forcément à côté d'un de l'annonce d'un cancer ou ton enfant qui est malade, tu relativises et tout, mais quand t'es plus dedans, t'as toujours ce truc de dire ouais, mais je maîtrise plus autant qu'avant, et là en fait s'il arrive quelque chose, peut-être que je suis pas en capacité de savoir. Et on se sent pas forcément légitime de dire est-ce que mes connaissances d'avant là, elles sont valables.
Mais c'est accepter de pas maîtriser, en fait, accepter qu'on peut pas savoir ce qui va se passer.
Mais ça, je crois qu'il y a aussi un truc quand on, enfin je sais pas, parce que je veux parler au nom de tous les gens qui sont entrepreneurs ou même qui ont monté leur boîte et tout, mais je veux dire le contrôle, tu vois, accepter de pas avoir le contrôle, moi c'est un truc, des fois je suis là ouais, je conceptualise le truc. Mais si moi demain j'ai plus le contrôle de certaines choses, qui l'a, enfin qui s'en occupe, tu vois, qui anticipe sur certaines choses. Donc c'est vraiment cette balance à trouver, où après ton métier devient aussi tellement, enfin fait tellement partie de ta vie, que tu le transposes forcément à d'autres sphères de ta vie. Et je sais pas comment toi tu gères justement cet équilibre entre ta vie pro, la gestion du succès de Tajine Banane. D'ailleurs, je fais une petite aparté quand même, parce que nous on parle de Tajine Banane, mais peut-être que certains et certaines qui nous écoutent ne connaissent pas cette marque incroyable, qui est donc une marque de vêtements, pas que pour femmes. Maintenant, vous avez élargi quand même la gamme aux bébés, aux enfants et même aux hommes aussi. Et qui est à la base destinée pour faciliter l'allaitement et rendre possible le fait d'allaiter partout, tout le temps, de façon stylée. Pratique complètement. Et c'est fou parce que moi j'ai acheté mon premier t-shirt Tajine Banane à l'époque où c'était les prototypes, ou je sais
c'était,
plus
c'était en août 2018 quand on a lancé la marque. Donc au début on avait 200 abonnés à peine, on a lancé et c'est passé un truc de fou, on a repartagé et tout, on est passé de 200 à 3000 en 48 heures, quelque chose comme ça. Et qui nous a dit, je crois que quelqu'un te connaissait et nous a dit je viens de partager ton compte à Léa, imagine elle vous partage, ça va être un truc de ouf. Moi je ne te connaissais pas, je vais sur ton compte, je vois 900 000 ou 1 million de followers, je fais mais c'est quoi ce truc de ouf. Et là nous à l'époque on regardait vraiment les commandes parce que c'était nous qui les emballions, et je vois ton nom et je vois une Léa qui c'était à Montpellier je crois, qui a commandé. Donc j'envoie ça à la personne en question qu'on avait en commun, mais je me rappelle même plus qui c'est. Je dis c'est elle et tout, mais oui c'est elle. Je fais mais non, elle a commandé.
J'étais comme une dingue, moi je trouvais ça incroyable, tu vois, c'était nous, jeune maman de... et je crois qu'en fait j'avais même pas accouché, j'étais en août 2018 j'avais accouché j'ai accouché en février, tout va bien, mais j'étais encore dans les débuts, et c'est vrai que j'ai suivi l'aventure. Et je sais que des fois c'est très compliqué parce que je n'allaite plus, donc je vais sur le site et j'ai vraiment envie de prendre des vêtements sans
moi
arrêter.
J'ai suivi parce que du coup je travaillais avec toi à l'époque, j'étais encore étudiante, c'était quand je suis tombée enceinte, je me suis dit il me faut mes t-shirts Tajine Banane, quoi. C'est toi qui m'as offert mon premier t-shirt Tajine Banane.
C'est vrai, il y a vraiment ce côté appartenance que vous avez su créer. Mais pas dans le sens, tu vois, secte. Je veux dire, c'est un truc beaucoup plus cool que ça. Il y a vraiment une communauté avec des valeurs de ouf. Bref, j'ai digressé complètement sur ma question de base qui était comment tu arrives justement à gérer cette entreprise de ouf avec plus d'une vingtaine de personnes. Et pas comment tu arrives à gérer, parce que je trouve que c'est une question qu'on pose qui est difficile. On gère comme on peut, mais plus quel est ton point d'équilibre, tu vois, entre toutes tes casquettes de vie, quoi.
Je pense que comme tous les entrepreneurs ou entrepreneuses, comme tu l'as dit toi-même, tu gères sans gérer. Moi, je pense que, donc, comme je le répète, ça fait que 3 ans. Donc peut-être que j'aurai un autre discours dans 10 ans. Et puis 3 ans de boîte, t'es quand même le nez dans l'eau. J'ai pas de clé. Mais je trouve que je le gère bien, dans le sens où ce qui est un peu intrusif, qui pourrait être un peu intrusif, ce sont les réseaux sociaux. Mais moi, je dois avouer que j'aime ça. Je fais toujours les réseaux de Tajine Banane depuis le début. Donc j'anime seule le compte. Et je pense à ça dans le sens où c'est souvent un peu la première... Ça doit peut-être t'arriver aussi. C'est un peu la première question que les gens te posent, par exemple, quand t'es en vacances. Ah, mais tu arrives à couper. Comme si c'était... Parce que pour les gens, ça pèse. Moi, au contraire, c'est...
Ouais. Merci de dire ça. Moi, je tout le monde me dit, là, coupe, coupe. Mais en fait, j'ai essayé. J'assure, j'ai essayé.
Mais moi, jamais j'ai réussi. Donc voilà, donc les réseaux sociaux, ça me pèse pas du tout. Et pourtant, c'est ce qui prend le plus de temps. Les moments où c'est plus compliqué, où il y a moins de... Déjà, il faut savoir qu'on bosse en famille. Donc moi, le cofondateur... Donc au début, j'ai lancé TB toute seule. Et très, très, très rapidement, genre le jour J, en fait, mon frère était en vacances chez moi. Et quand j'ai lancé la marque, et lui, il venait juste de finir ses études en master en gestion de carrière. Donc il était dans ce domaine-là, sauf qu'il faisait ses stages. Et moi, je n'avais même pas parlé que je voulais faire ça parce que je n'avais même pas parlé à ma famille, étant donné que c'était un petit passe-temps et que j'allais péter la honte, j'allais en vendre deux. Donc j'avais même pas envie d'en parler. Et le jour où je le lance, je dis quand même à mon frère, bah écoute, j'ai ça, je vais faire ça et tout. Il me fait, ah, mais putain, c'est des vrais t-shirts, t'as vraiment des étiquettes et tout. Je me rappelle, je dis, bah oui, il y a des étiquettes. Bon, bref, il part à la plage, je lance la marque en plus, un 6 août, en pleine matinée, un truc à ne surtout pas faire.
Il y a personne vraiment, en ligne.
C'est le pire mois pour lancer un business.
Non, il n'y a pas de règles en fait.
Il n'y a rien qui. Il n'y a pas de règles, mais vraiment pas de règles. Mais bon, je déconseille quand même de faire ça. Et bref, je lance le truc, une vente, deux ventes. En plus, ce sont des t-shirts d'allaitement, donc c'était même pas des ventes soutien, c'était même pas des potes à moi. Ni rien, c'était des gens que je ne connaissais pas qui passaient commande. Et donc j'envoie un texto.
Mais du coup, tu lances ta marque en te disant, bon, de toute façon, ça va pas marcher.
Oui, parce que j'avais fait le t-shirt pour moi et après, je m'étais dit, il est quand même pas. Il est pas ouf, mais c'est mieux que ce qu'il y a et j'ai l'impression que c'est que j'ai des choses à dire là-dessus. Et puis je sentais que j'avais envie de parler d'allaitement parce que je venais d'avoir mon enfant et c'était mon troisième et je trouvais qu'on n'en parlait pas ou alors
c'est,
on en
c'est
parlait.
C'est plus ton engagement qui t'a poussé à lancer ça que.
Ben, je savais qu'il fallait que je crée un compte pour en parler. Parce que sur mon compte perso, j'avais 200 amis, mais c'était vraiment mes amis. Et si j'allais commencer à parler d'allaitement, ils allaient me dire « meuf, tu saoules ». Je me suis dit « il faut que je décale ailleurs pour en parler à d'autres personnes qui seront potentiellement intéressées, puis on va en discuter ensemble ». Et voilà. Et j'ai dit « Tajine Banane » parce que c'était le surnom de ma famille et que flemme de mettre un autre truc. J'ai dit « bon allez, j'écris Tajine Banane, je changerai plus tard ». En fait, c'est ces petites étapes qui ont fait le hold-up de Tajine Banane. Et du coup, ben, je me retrouve avec un proto qui est pas trop mal. Je me dis, ben, je peux peut-être en faire quelques-uns. Je trouve une usine qui me dit, ok, on en fait 150. Là, 150, ça fait beaucoup. Sauf que c'est pas financièrement non plus un investissement incroyable. Et vu qu'il me venait de m'arriver énormément de pépins, toute ma famille était aux petits oignons avec moi. J'ai fait, papa, s'il te plaît, tu peux me prêter un peu d'argent, j'aimerais faire des t-shirts. Ok. Et tout le monde pouvait me dire ok à tout à ce moment-là. Et du coup, je me suis retrouvée avec cette prod qui est arrivée donc, dans mon salon genre le 31 juillet, un truc comme ça. Donc, il fallait que j'en fasse quelque chose. Et donc, c'est là que j'ai créé un compte, enfin un site Shopify. Enfin, même pas Shopify, c'était un site Wix gratuit. La hesse, mais vraiment, genre pas d'ordinateur, rien du tout. Au culot, au talent, comme on dit. Et j'ai posté ça comme ça. Et donc, du coup, quand ces ventes sont arrivées ce jour, j'étais la personne à s'en douter le moins. Et j'ai écrit un message à mon frère donc, qui était à la plage. Et je lui dis, Marvin, j'ai fait une vente. Marvin, j'ai fait deux ventes. J'ai fait trois ventes. Là, il fait, vas-y, je rentre. c'est pas possible, c'est pas normal. Et là, il arrive, il regarde un peu. Et quand on le connaît, maintenant, il est exactement pareil. Et là, il a regardé un peu les stats. Il a dit, mais il se passe un truc. Tu vois, genre, déjà, Instagram avait explosé. Il y avait de la visite sur Google Analytics. Enfin, il y avait quelque chose qui se passait. Et là, on s'est retrouvés en fait, à passer 48 heures sans dormir. Et à tout calculer, il m'a recalculé le prix de mon t-shirt, bien sûr j'étais pas du tout dedans, il n'y avait rien qui allait. Et c'est là qu'il m'a dit, écoute, vraiment, et pour l'anecdote en fait, le 21 août, donc moi je suis née le 22 août, et le 22 août je devais retourner à l'école, j'avais eu un concours entre temps, pareil, hyper malade, je suis allée passer un concours pour être auxiliaire de puériculture, pour bosser en maternité. Et je savais qu'il fallait que je révolutionne un truc, je ne savais pas comment, donc j'ai pris la voie que je connaissais donc en blouse. Et il y a une autre voix qui est arrivée en même temps. Et donc le 22 août, je devais repartir à l'école. Et ça faisait déjà bien une vingtaine de jours, enfin 15 jours que TB, il se passait un truc vraiment où on ne dormait pas beaucoup. Et la veille, je dis à Marvin, je dis, écoute, je vais retourner à l'école. En plus, moi, j'en rêvais de ce concours. Je rêvais de bosser en maternité et tout. Mais l'école était à une heure de route de chez nous. J'avais trois enfants, dont un en bas âge. Un truc qui se passait que je ne contrôlais pas trop. Et là, il me dit, il faut que tu choisisses. Vraiment, il faut que tu choisisses. Quel que soit le choix que tu fais, moi, je te suis parce que déjà, je ne vais pas faire Tajine Banane sans toi. Mais je pense vraiment que tu peux passer à côté de quelque chose si tu fais cette école maintenant, alors que tu peux potentiellement la faire l'année prochaine s'il faut. Et donc là, j'ai choisi. Et à partir de ce moment-là, ça a déclenché. Ça a switché sur full Tajine Banane.
Mais du coup... mettez des petites actions en place et entourez-vous bien, quoi. Moi, c'est un peu ce que j'entends dans cette histoire.
Oui, ouais, t'as vraiment... tout ça pour en venir au fait de gérer. Donc, il est... t'es là à ce moment-là. Il m'a ru... C'est mon frère vraiment qui a réussi à me faire prendre la première vraie grosse décision, c'est-à-dire le vrai premier virage. Donc, qui dit virage dit aussi santé financière en péril, parce que retourner à l'école me permettait de pouvoir repousser mon chômage. Et je vivais que de mon chômage à ce moment-là, et parce que tu repartais en formation. Ne pas aller à l'école voulait dire plus de chômage, donc zéro revenu. Mon frère était étudiant, donc il gagnait 300 balles par mois. Et mon copain était rugbyman, mais en 3e division, donc à 1500 euros par mois et pas à 20 000 euros. Ouais. Donc ça faisait beaucoup de monde.
Trois enfants.
Ça faisait beaucoup de monde sur 1000 balles. Mais c'était le challenge à prendre. Et en fait, dès le début, vu qu'on s'est associés comme ça et qu'on s'est tous fait confiance, on est restés ensemble. Donc moi, je suis restée seule dans la boîte, seule officiellement, je veux dire, en micro-entreprise de août à décembre. Et en janvier, on s'est associés officiellement, mon frère et moi, en mode 50-50.
Et travailler avec la famille, émotionnellement et même, tu vois, dans les relations et tout
Ben justement, c'est dans le sens barrière perso et pro. Moi, j'ai l'impression, et encore une fois de plus, on verra dans quelques années, que c'est un énorme plus. En mon sens, c'est une énorme chance, dans le sens où on coupe pas, ça c'est sûr. Il n'y a pas de moment où je me dis « Oh, je pense pas à tâcher une banane, c'est impossible, ça n'existe pas. » Mais quand on est à la maison et qu'il y a quelque chose qui nous a angoissé ou quelque chose qui s'est mal passé ou au contraire des réussites ou des... On sait de quoi on parle, en fait.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais. Genre moi, il y a des moments où je vais être stressée. Mon mec, il a même pas besoin de me dire pourquoi t'es stressée. Il a vu le message qui m'a saoulée ou il a entendu l'histoire qui m'a énervée. Et
ils
sait
font
très
partie
bien.
De ton monde, en fait.
Ils font partie de mon monde. Ouais. Vu qu'on parle la même langue et on a le même rythme. Et vu qu'on est différents, on se complète et en fait, on se calme, on s'apaise quand il faut. Mon frère, il va avoir des moments où il va être un petit peu plus stressé parce qu'il, lui, il est vraiment dans tout ce qui est gestion. RH, gestion, production, donc lui il est dans les chiffres, donc il a une vision de la boîte que moi j'ai pas et que je cherche pas à avoir parce que je suis nulle dans cette façon là de voir les choses. Moi je vais avoir une vision plus artistique, plus communication, plus où est-ce que je veux nous amener, et en fait moi je regarde pas ce qu'il fait, il regarde pas ce que je fais, et on avance complètement à la même vitesse, sans vision sur ce que fait l'un et l'autre, mais au moins parfois lui il va avoir ses angoisses et son stress parce qu'il est en train de faire un chèque de ouf au Portugal et moi je suis là derrière, ouais, je suis pas sûre de vouloir le faire, non meuf, on va le faire. Et moi à côté de ça, ben, je vais avoir mes trucs et
mais ce qui prouve aussi qu'on se fait pas tout seul et que ce qui va nous faire parfois grandir aussi, c'est d'avoir un entourage qui va être heureux de nos réussites, qui va nous pousser, qui...
Mais je pense
et
que
puis
j'aurais pas
dans
réussi.
La enfin tu le dis, vous êtes hyper complémentaires et c'est ça, c'est chacun a ses compétences, chacun a ses domaines d'expertise et chacun y met sa patte là-dedans et c'est ce qui fait qu'un projet prend vie, c'est mettre des actions et bien s'entourer et partir du principe que oui, pour grandir généralement, ça commence déjà enfant, pour bien grandir on a besoin d'un bon entourage et d'un bon environnement. Et pour monter des beaux projets, ce genre de choses,
je pense. Ouais,
l'entourage
est
important.
Mais, tu vois, je pense que le point d'équilibre, en fait, il est hyper personnel. Et ce qui va sembler, je crois qu'on en avait déjà abordé dans un épisode, mais souvent, c'est une question qui revient, tu vois, quand t'es indépendant et tout, ouais, l'équilibre et tout, comment tu fais pour gérer. Et en fait, je trouve que l'équilibre de l'un n'est pas forcément l'équilibre d'un autre. Et il y a des personnes pour qui avoir une charge de travail énorme, ne pas pouvoir couper, justement, tu vois, comme tu disais, c'est pas du tout la vie qui leur semble équilibrée, qui leur apporte du bien-être. Et pour d'autres, c'est complètement l'inverse, parce que en fait, toi, à travers ton boulot et à travers ta boîte, au-delà de ça, tu fais vivre tes valeurs, mais tes valeurs perso, en fait, aussi. Et je pense que ça, on le rappelle souvent et on en parle beaucoup sur Takecare, c'est à partir du moment où tu te sens aligné, on entend beaucoup ce mot dans le dev personnel qui est utilisé à tort et à travers, mais pour moi, l'alignement, et je parle vraiment en mon nom, c'est quand tu mets des actions en place qui viennent nourrir des valeurs qui sont perso et que tu arrives à faire rayonner.
Mais en fait, tu n'as pas la sensation de bosser quand tu as la chance, que ce soit par une marque, que ce soit par un site, par un podcast, par n'importe quoi, par juste l'écriture d'un livre ou simplement une discussion avec une amie. À partir du moment où tu partages tes valeurs ou qui tu es, ou moi j'ai la sensation aujourd'hui de faire quelque chose. Je vends des t-shirts, mais le t-shirt, je le dis toujours à mes proches, c'est mon vecteur. C'est comme un micro en fait, il me donne de la parole. Si ça avait pas été un t-shirt, mon connaissant, j'aurais fait quand même autre chose. Et à tout moment, même un compte Instagram sans vendre quelque chose, il aurait quand même peut-être explosé, parce que je sais quoi dire, je sais comment le dire, et j'ai pas peur de le dire.
Ouais, c'est ton moyen en fait. Mais oui, le t-shirt, ça, c'est ton moyen, même si je veux dire, tu te bats là à te foutre de la gueule de tes clients, c'est quand même des très très beaux produits. Il y a cette créativité et c'est un produit qui en soi sert, tu vois.
Oui,
qui...
mais je pensais vraiment pas autant au début.
Mais c'est vraiment, et on en a parlé tout à l'heure dans le train en venant sur Bordeaux, tu as trouvé ce qu'on appelle, c'est un peu ton ikigai, c'est-à-dire l'équilibre entre ce pour quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin, quelque chose qui t'apporte une rémunération et quelque chose qui te fait kiffer. Ouais. Voilà, ta passion. Ces quatre piliers-là, souvent, c'est quelque chose dont je pousse les gens à se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie aujourd'hui, qui pourrait t'apporter une rémunération, qui a une utilité, parce que le sentiment d'être utile, il est important, et ce pourquoi tu es doué. Quand il te manque un des paramètres, il y a un moment donné où ça va être moins bien, parce que si, par exemple, tu es doué, que ça te fait kiffer, que c'est utile, mais que ça ne t'apporte pas de rémunération, ça s'appelle de là-dessous. Enfin, voilà, tu fais du bénévolat, quoi. Enfin, etc. Donc, et toi, tu as vraiment trouvé ça. C'est-à-dire, ça porte ce nom-là, l'ikigai.
Ouais, c'est un truc japonais, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et c'est une philosophie. Donc, finalement, tu vois, sans savoir, tu...
Mais c'est ça aussi dans l'équilibre perso et pro, c'est que j'ai pas la sensation de travailler, et c'est pas du bullshit. Je pense que, comme beaucoup d'entrepreneurs, je ne compte pas mes heures, mais si tu regardes, à mon avis, le moment où je me couche et le moment où je me lève et tout ce qui se passe dans mon cerveau, je travaille énormément, mais j'ai pas la sensation de bosser parce que déjà, ce travail, autant il est très prenant, mais je n'ai jamais eu autant de liberté.
Ouais.
Je me suis jamais sentie aussi libre que depuis que je bosse comme une ouf et que.
Ouais, parce qu'on a cette vision du travail qui est souvent, tu vois, hyper pénible, contraignant. Alors, bien sûr, il y a des métiers, tu vois, on a fait complètement l'expérience, même si être soignante, j'imagine, c'était, on l'a bien entendu, un métier qui, tu vois, te nourrissait d'une certaine façon et tout. Bien sûr, tu as des conditions qui sont telles que tu as une pénibilité qui s'installe de fait.
C'est vrai, une contrainte de planning, une contrainte de hiérarchie, une contrainte de temps, une contrainte de service. Tu as des contraintes partout, et dans mon job, j'en ai énormément. J'en ai ne serait-ce que par la communauté T'as une banane. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Tu es jugé dans le textile. Dès que tu sors d'une collection, tu es quand même soumis à des jugements à longueur de temps. C'est pas comme... un influenceur ou une influenceuse qui a juste besoin d'être elle, et encore tout le monde est jugé.
Oui, il y en a, franchement, c'est le jugement.
Mais là, on n'est pas dans un, je suis pas dans un business qui repose sur une idée et c'est terminé. Il faut la remettre en question, il faut se remettre en question, il faut s'améliorer, et puis on est sur un secteur où on a, entre guillemets, j'aime pas du tout ces mots, tout créé, mais on va dire on a ouvert une porte où d'autres marques s'engouffrent, dans le sens où je crois que, et c'est aussi significatif du manque de représentation. Et puis quand je suis arrivée et que j'ai dit mais je me sens seule, c'est pas possible, il n'y a pas que moi qui ai allaité, je me suis vraiment posé cette question, quoi. C'est que
déjà en tant que maman, je trouve que le jeu de maman, en plus t'as été on en a peu parlé, mais maman jeune, par rapport à la société actuelle, t'es devenue maman à 19 ans. Déjà quand on est maman, on se sent, enfin il y a une certaine forme de solitude, parce que je trouve qu'on n'est plus du tout dans la même sororité qu'il pouvait y avoir il y a quelques années maintenant, entre tante, cousine, sœur, mère, et l'allaitement. Je trouve que quand on se demande souvent qu'est-ce que tu conseilles pour réussir son allaitement, et souvent moi je leur dis mais en fait il y a tellement d'importance que moi j'accorde à l'entourage, en fait, au fait de justement se sentir comprise, aider, épauler, accompagner, c'est hyper important. Et dans la maternité en général, au-delà de l'allaitement, je pense que ouais, il y a ce côté-là. Donc ça traduit aussi, tu vois, d'un manque, je pense, au niveau de la société, de qu'est-ce qu'on fait des mères, tu vois, des parents bien sûr, mais quand même des mères et de la place qu'on leur accorde.
De toute façon, l'accompagnement à l'allaitement déjà de base il est, enfin en France c'est un peu la cata quand même sur plein de points, et puis ça touche à une partie de la femme, le sein, ouais. qui est tellement sexualisé que ouais. bon du coup finalement tes t-shirts, tes pulls, tes robes, ils touchent à une partie du corps de la femme. Alors déjà le corps de la femme, voilà, mais une partie du corps de la femme et avec plein de sujets autour, enfin tout le projet à part entière.
Féministe, en fait.
Oui, mais complètement.
Mais je ne me rendais pas du tout compte de ça. Ce qui est étrange, c'est qu'autant je suis très engagée, je sentais qu'il fallait qu'on en parle. Il fallait que j'en parle d'une manière ou d'une autre. Moi, je pensais plus à l'information. J'avais appris avec les trois allaitements, parce que mon premier, j'ai, comme on dit dans le jargon, raté mon allaitement, mais j'ai allaité une dizaine de jours. Et la deuxième, je ne voulais pas du tout en entendre parler, parce que je me suis dit que l'allaitement, c'était vraiment pour les masos, et que c'était un truc pas du tout fait pour moi, et ça faisait mal, et c'était nul. Et je me suis dit, bon, je lui donne quand même la tétée d'accueil, parce que je sais que c'est important, et puis basta. Et puis je l'ai été 18 mois et j'ai adoré ça. Et avec elle, j'ai découvert l'allaitement et plein de choses. Et en fait, j'étais à l'époque dans un groupe Doctissimo ou je sais pas quoi, là, un groupe comme ça, un forum, donc qui est un peu l'ancêtre préhistorique. J'ai que 33 ans, mais c'est un peu l'ancêtre d'Instagram à ce moment-là. Et en fait, dans ce groupe de mamans, et d'ailleurs, je parle toujours, il y a une des mamans qui m'a donné envie d'allaiter, qui est architecte de ma boutique aujourd'hui. Moi, je trouve ça un peu
génial.
Et Hélène, si tu m'entends. Et en fait, toutes ces mamans, elles parlaient pendant leur grossesse de leur désir d'allaiter, et elle se donnait des tips comme ça au milieu du forum, genre pic de croissance, plein de petites choses qui sauvent des allaitements. Et moi, j'ingurgitais ces informations en me disant juste, je me sens pas concernée, mais je trouve ça quand même un peu ouf, j'apprends, et mine de rien, en fait, ça a fait son chemin inconsciemment, ce qui fait que la tétée d'accueil s'est super bien passée alors que j'avais décidé de ne pas allaiter, et que la suite s'est très bien passée, parce que tout simplement, tous les moments qui arrivaient, qui sont quand même assez noir sur blanc, presque à heure fixe, le problème du pic de croissance, etc., ben je savais que ça existait, et je savais comment le résoudre. Et puis là, c'était des mamans qui avaient des enfants en même temps que nous, et en fait, on se suivait par rapport au mois. Donc le problème que je rencontrais avec Mali, il avait été plus ou moins décrit 4 jours avant par le bébé qui était né avant,
Tu t'es rendu compte de la puissance
du lien. Et j'ai allaité 18 mois sans aucune galère. Pourtant, j'ai eu des mycoses, tu vois, au sein, des trucs. Mais ce sont, voilà, ça s'appelle des galères. Mais c'est pas quelque chose qui va entraver ton désir d'allaitement ou qui va même juste le mettre en péril. Donc je pense qu'en créant ce compte, c'était ce que j'avais envie de retrouver pour cette troisième grossesse.
Je trouve que c'est ça, ça a créé du lien. Le lien, c'est essentiel. Mais en fait, dans plein de domaines, et nous, on parle beaucoup de santé mentale. Actuellement, il y a un groupe Take Care privé, tu vois, on a quelques filles qui parlent entre elles, qui testent nos programmes en avant-première et tout, bref. Et on a commencé à leur dire, n'hésitez pas, vous ne connaissez pas, vous venez pas du tout du même milieu, vous êtes juste là parce que vous avez envie de prendre soin de vous et de bosser sur
même objectif, blocages.
Même objectif, mais voilà, vous ne connaissez pas du tout. Et en fait, la puissance du réseau qui fait que tu crées une dynamique, en fait. Et aujourd'hui, je pense que en tant que marque, en tant que jeune marque, il y a une espèce de responsabilité aujourd'hui. Les valeurs que tu insuffles dans ta marque, dans tes produits, etc., ça va forcément répondre aussi à un engagement. Et aujourd'hui, je trouve que même, tu vois, moi je suis toujours évidemment abonnée à Tajine Banane et tout, alors que je ne l'aide plus et que je ne veux pas d'autres enfants. Il y a ce truc-là de dire, quand je vois une maman qui porte vos habits, il y a un sentiment de fierté, de me dire le message il se diffuse.
Puis d'appartenance aussi.
Ouais.
À toi aussi, tu portes ton tagine.
Ouais, il y a ce côté-là.
Il y avait ce truc d'invisibilité de l'allaitement, ou du moins du corps de la femme qui allaite. Donc il y a un corps qui est, aux yeux de tout le monde, différent, alors qu'il est juste fonctionnel, dans une fonction différente. Et en fait, je crois qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure du temps avec Tajine Banane, et que parfois j'ai la question, par exemple, oui, comment tu fais pour avoir une communauté ? Je dis toujours aux gens, ne cherchez pas à créer des communautés. Ouais. Et tout le temps, ma phrase à moi, et ça fait pareil, ça fait deux fois que j'emploie le mot bullshit dans le même podcast, mais tu parlais d'alignement, les mots, j'aime pas trop les mots que tout le monde emploie, mais pour le coup, on ne crée pas une communauté, il faut chercher à créer du lien. C'est-à-dire que les gens, eux-mêmes, ont besoin de se parler. Moi, le nombre de fois où je partage des stories ou de mamans qui vont me poser des questions plus techniques, par exemple, je sais pas, j'ai mal au sein droit, il veut têter que le sein gauche, ou je dis des bêtises. Je connais la réponse. Je pense que je suis calée aujourd'hui en allaitement. Je pense que je peux répondre à cette maman, et que si c'était ma pote, je lui réponds. Et voilà.
Bien sûr.
Je ne vais jamais, par exemple, sous Tajine Banane, répondre moi directement à la maman en disant « faut faire ci, faut faire ça ». Je partage en story, bon, pas tout le temps, parce que sinon je partagerai que ça, mais une fois de temps en temps, je partage en story, je mets le nom de cette personne et je dis « s'il vous plaît, venez l'aider ». La meuf, 20 minutes après, ouais. deux jours après, il m'envoie un message. Pff, merci beaucoup. J'ai eu 20, 40, 50 messages privés. Tout le monde est venu m'aider et tout. Et ça, cette force-là, ça évite de te mettre, ça évite de moi de me mettre au milieu. Et en fait, ce qu'on a besoin au milieu, c'est juste le lien. C'est pas une personne, mmh. et que ce soit un t-shirt, que ce soit une montre, ouais, un hamburger, on s'en branle en fait. Oui, c'est, on veut juste.
Non, mais t'inities en fait, c'est un mouvement. Et souvent on le dit en fait, il y a beaucoup de choses qui se créent par le mouvement et on a ce truc, ouais, on est tous branchés sur nos téléphones et tout. Oui, bien sûr, tu peux parler des dérives d'internet et tout, mais moi aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est aussi un kiff parce que je me dis, punaise, on a la possibilité aux quatre coins du monde, sur des sujets qui nous touchent et tu vois, qui résonnent en nous d'une certaine façon. Bah de se connecter en fait, mmh. les uns les autres, d'échanger, c'est hyper important. Enfin,
ça te permet vraiment d'assumer. Ouais. Je trouve que ça rend fier. Enfin, tu t'enfiles ton t-shirt, t'as une banane, tu reprends sur TB, c'est que t'assumes, tu vois, t'assumes d'allaiter.
C'était le côté invisibilisé de ces femmes qui allaitent, et maintenant, elle s'est rendue visible par le vêtement, dans le sens où elles se reconnaissent dans la rue. Avec le même vêtement, ils se parlent.
Comme les motards qui disent bonjour.
Ouais, ça, mais t'as ce truc de dire que c'est pas marqué sur ton front que t'as l'aide, mais peut-être possiblement si t'as ce vêtement, que je te croise, que je viens de passer une nuit pourrie, et que moi aussi, je l'ai pas mis aujourd'hui, bim, je vais te faire un sourire. Mm-hmm. Et t'as vraiment un truc qui revient, c'est.
T'es fière, quoi.
Ouais, mais plus que de la fierté, c'est presque un moment de. T'assumes. Je suis pas seule.
Ouais.
En fait, je suis pas seule.
Un soulagement.
Et quand t'arrives sur une terrasse et qu'on t'entend une nana qui dit je n'ai pas allaité et j'ai vu. À la table d'à côté, une maman a une banane, j'avais pas mon t-shirt, j'ai sorti mon sein, pourtant j'avais pas de vêtements adaptés et tout, c'est ce qu'on dit toujours, elle était partout tout le temps, avec ou sans nous. Moi j'ai jamais dit, par exemple, c'est un indispensable, jamais tu me verras écrire, c'est un indispensable. Ce qui est indispensable, c'est toi, ta confiance, ton bébé. Tes fringues, t'as les moyens d'en acheter 50, tant mieux, t'as envie de te faire plaisir avec un t-shirt et tu le ponces pendant 9 mois, tant mieux. Et il n'y a pas ce truc de t'as besoin de ta une banane. Et c'est ça aussi peut-être qui fait la force du truc, c'est que.
Tu incarnes des valeurs et de toute façon, les gens les plus alignés et ceux qui savent le plus où ils vont, c'est ceux qui incarnent profondément leurs valeurs. Dès que tu mets en place des actions dans ton quotidien qui sont aux antipodes de ce que tu veux et de ce que tu ressens et de tes valeurs, c'est ça qui va plus créer ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. En fait, c'est vraiment le fossé entre tes valeurs et les actions que tu mets en place. Alors qu'au contraire, quand tu mets au quotidien en place des choses qui sont vraiment en lien avec toi, du coup, ça a du sens en fait. C'est-à-dire que ce que tu fais, ça a du sens. Et donc,
c'est pour ça que tu ne sens pas forcément le besoin de couper aussi, tu vois. Je pense que.
Je coupe plus facilement avec ta Jean Madden, parce que du coup j'ai deux comptes, j'ai un compte personnel et un compte de marque. Au début, j'avais pas du tout, entre guillemets, développé mon compte personnel parce que je partageais énormément sur ta Jean Madden du coup. Et sur le perso, comme je disais, j'avais 200, 300 abonnés, je faisais mes petites souris comme d'habitude. Et étrangement, ça c'est là où j'ai fait aussi un petit burn-out des réseaux, mais on va dire que j'ai ressenti qu'il se passait vraiment un truc avec TB. Une certaine, on peut nous reconnaître dans la rue, on peut nous reconnaître dans un train et tout. Et j'ai eu un peu le truc de les enfants, en fait, mélanger dans ta Jean Madden tous les jours comme je le faisais. Et comme je le fais sur le perso qui est public, donc ça reste la même dynamique. Mais je les ai sortis un peu de ta Jean Madden et je nous ai vraiment décentrés de la marque. Je fais très peu, voire pas de facecam sur TB. Je signe les posts quand je dis « je ». Sinon, on sait que c'est moi qui écris tous les posts, mais quand vraiment j'écris quelque chose un peu personnel où je dis « je signe parce que je pars du principe que ce soit l'équipe ou peut-être mon frère, peut-être qu'il pense pas la même chose que moi, donc je signe Ali. Tout ce qui va être un petit peu plus notre vie de famille, nos vacances ou n'importe, je le partage plus.
Je pense que l'équilibre, en fait, il est absolument pas figé. Et ça fait partie du mouvement, c'est qu'aujourd'hui, ton contexte, il est différent de celui des débuts et tu protèges d'une certaine façon, tu vois, ton environnement aussi de cette façon-là. Et c'est hyper pertinent et je pense qu'il faut être en accord et en amour avec ces contradictions, entre guillemets, où au début, parfois, même au début ou à la fin, peu importe, mais des fois, on met des choses en place qui, à un certain moment, nous paraissent, tu vois, plus OK et de s'autoriser à bouger aussi là-dedans et à accepter que, justement, l'équilibre est tout sauf un point fixe, en fait. Aujourd'hui, ce que tu as créé, la façon dont tu gères les choses, c'est ce qui te convient. Et peut-être que, comme tu dis, dans 10 ans, ce sera autrement. Mais il faut se laisser aussi la possibilité, dans la vie en général, et là, je décentre un peu par rapport à, voilà, même au-delà de l'entrepreneuriat et tout, même si vous êtes dans vos études, ou voilà, pour ceux qui nous écoutent, de se dire, ce que je vis aujourd'hui, c'est ce qui existe, en fait, maintenant, et le présent, il n'y a que ça qui existe vraiment. Mais si ça vient à bouger, et si ça vient à. Voilà, switcher sur d'autres choses, c'est OK, en fait. J'ai le droit de tester, d'expérimenter et de me dire que ce qui me convient aujourd'hui n'est pas ce qui va me convenir demain, tu vois. Et...
Oui, puis surtout, on en revient toujours à cette anticipation. Tu auras beau anticiper ce qui arrivera peut-être demain, bah, tu pourras jamais vraiment l'anticiper. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quel que soit ce qui arrivera demain, jusqu'aujourd'hui, tu as eu les ressources nécessaires pour y faire face, l'affronter, trouver des solutions, etc. Et donc demain, tu auras ces mêmes capacités-là pour te renouveler, te recréer.
Et... Ouais, et être, ouais, être, être bien avec toi-même, comme tu dis. En fait, si c'est, c'est l'organisation interne qui, que tu as trouvée et qui est OK pour toi. Et pour autant, tu vois, moi qui suis d'aventure depuis le début, je ne me suis pas dit à un moment donné, oh là là, il n'y a plus du tout de, de, d'Ali dans, le, dans le, la communication Tajine Banane. Pas du tout. Parce qu'en fait, ça reste toi. Simplement, ben, tu vois, les différentes casquettes de ta vie font que ben, ben, tu disposes, en fait.
Et puis, j'ai commencé avec un bébé que j'allaitais.
Ouais.
Et donc du coup il y a forcément des images de toi en train d'allaiter avec les vêtements, et puis il était tout petit donc je le trimballais partout. Maintenant il est plus grand, il va à l'école, en fait la marque elle évolue aussi en même temps que nous, la communauté s'est agrandie, je prends aussi beaucoup plus de plaisir à donner la parole, à mes clientes que la mienne. Mon expérience elle est là, mais ce qui est intéressant c'est ton expérience à toi, et moi en plus on la connaît. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire en fait, et aujourd'hui c'est pas moi qui allaite, en 2022, là en février 2022 je n'allaite pas. Donc
Tu trouves que les choses elles ont évolué justement par rapport à ça, peut-être que t'es dedans donc
franchement depuis un an et demi les choses évoluent, dans le sens où au début j'étais un peu genre vieux jeu, je me disais oui en fait c'est juste repris par les médias pour faire du papier, mais c'est pas mal parce que ça veut dire que les femmes se plaignent, donc toutes celles qui ont eu des délits d'entrave à l'allaitement, donc des personnes qui se sont fait vraiment prier d'arrêter d'allaiter dans l'espace public, voire même agresser physiquement ou verbalement lorsqu'elles voulaient allaiter leur enfant au resto ou très récemment sur une aire de repos, ben ça avant ça arrivait et c'était presque bon ben pardon désolé j'aurais peut-être pas dû, et puis tu le dis à la limite dans ta sphère privée mais jamais tu vas le dire, et je crois qu'aujourd'hui et là ça fait la une des journaux toutes les 5 minutes donc pour moi ça c'est bon signe parce que ça veut dire que déjà tu te plains, que tu sais que c'est pas ok,
et
que
t'es entendu d'une certaine façon
et qu'à un moment donné tu fais porter le pet, et il y a aucun combat d'égalité qui s'est fait sans ça.
Bien sûr.
Donc je suis tout à fait pour, et je pense que
révolution
ça
change. S'est fait.
Ouais, silencieusement, ça c'est clair.
Donc sans jeter l'huile sur le feu, et mais c'est bien, je pense qu'il se passe plein de trucs, et maintenant les femmes elles sont beaucoup plus. Il s'est passé un truc, je pense, en 2018, des fois on en parle, il y a le podcast de Clem, La Matrescence qui s'est lancé, Bliss Story qui s'est lancé, je me suis lancée. Je crois qu'il y avait rien. Pas grand chose, et on était un peu en mode waouh, elles sont où les meufs comme nous, c'est pas possible. Et il a fallu des caractères un peu comme les nôtres, ou le hasard de la vie, la chance aussi, bon bref, tout ce que tu veux, pour qu'on se lance et qu'on trouve notre public et qu'on arrive à porter nos mots et qu'on se soutienne aussi parce qu'on s'aime énormément, que tu vois, il y a une espèce de
il y a quelque chose qui se crée, je pense.
Et ça s'est passé il y a 3 ans, parce que je pense que c'était le vide, quoi. C'était le vide de...
Franchement, moi, quand j'ai commencé à parler d'éducation et tout, même sur les réseaux, tu vois, j'étais quand même jeune, et puis les gens m'ont connue sur les réseaux à 15 ans à parler de make-up. On s'est dit, c'est qui celle-là pour qu'elle se prend ? Parce que l'éducation, et au-delà de l'éducation, en fait, de la maternité, de toute façon, la parentalité est un sujet qui est hyper sacralisé, dans le sens où ça vient remuer des choses. C'est des gens, t'as l'impression que tu viens chez eux, que tu leur dis toc, 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 excusez-moi, ce que vous faites, c'est pas bien, je viens vous dire comment il faut faire, alors que pas du tout, en fait. Nous, on est juste là en mode, ben voilà ce qu'on vit, voilà comment on a décidé de le vivre. Et aujourd'hui, si vous partagez les mêmes valeurs et que ça résonne en vous, bah, vous n'êtes pas seul et égo. Et je crois que, je pense que c'est un peu le mot de cet épisode. C'est que peu importe ce que vous incarnez et où est-ce que vous l'allez, quels sont vos objectifs et vos valeurs, vous avez moyen d'embarquer du monde, de vous adresser à des personnes qui portent cette même voix et de créer quelque chose, en fait.
La première chose qu'on te pose comme question quand tu veux monter ta boîte, c'est est-ce que tu as fait un business plan ? Je dis ça dans le sens où... J'ai peut-être annoncé à mes potes que j'allais lancer Tajine Banane une semaine avant de le faire. C'était l'été, donc on était autour de la piscine et il y a toujours Jean-Michel, j'ai fait une école de commerce, machin, bidule, et tout le monde vient.
Souvent un homme, non ?
Beaucoup. Qui me disait, mais du coup, t'as fait un business plan ? Non. Non, mais tu sais bien quand même combien il y a de femmes qui allaitent, combien il y a de femmes qui accouchent par an et tout. Ben non. Je sais pas, je sais même pas compter jusqu'à 10.
Tu vas même faire des business plans.
Je sais juste que ça manque.
Exactement. Ouais, je sais juste que ça me manque. Donc c'est pas possible que je sois la seule d'une trentaine d'années à allaiter, déjà, c'est pas possible. Parce que dans mon entourage, personne n'allaitait. Je dis allaiter, parce que maintenant, toutes mes copines qui ont des bébés, quoi, elles essayent, même celles qui étaient, c'est pas possible, elles essayent, ou du moins elles en parlent, ou elles sont moins choquées. Je sens que les mentalités évoluent à mort là-dessus.
Donc et parce ça, qu'on en parle beaucoup plus, en fait.
Ouais, donc mais forcément, en fait, il faut juste... pas forcément. Il faut s'écouter, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un besoin ou un manque de représentation ou qu'on a la sensation de se sentir un peu seul dans le bain,
ouais, d'avoir déjà, un message à porter, ouais.
Il faut soit aller le chercher tout seul, soit aller chercher des ressources, aller chercher des personnes qui vont pouvoir porter le même message et s'entourer aussi. On parlait des réseaux sociaux, prendre le temps de faire du tri. J'ai fait un post il n'y a pas très longtemps à ce sujet que j'ai appelé Unfollow. Faites le tri dans les personnes que vous suivez, dans le sens où il faut que les personnes qui vous montrent un contenu, vous soyez en adéquation avec ça et que ça ne vous apporte pas ni jalousie, ni envie.
Culpabiliser.
Pas vous faire culpabiliser. Ouais. Que ça puisse vous informer, au moins vous divertir. Enfin, il faut qu'il y ait un truc positif
vous
qui se
inspirer.
Passe.
Ouais.
Vous inspirer.
Mais souvent on le dit, mais c'est hyper important, et la santé mentale sur les réseaux, c'est genre hyper important parce que c'est aussi une réalité, tu vois, et encore plus quand on a été confiné, voilà, qu'on était encore plus sur nos téléphones, et peu importe, de toute façon, voilà, on est une génération où, dans tous les cas, ça fait partie de notre environnement, et je pense que à un moment donné, si ça te tire pas vers le haut, moi je fais des tris hyper souvent.
Il faut trier tout le temps.
Ouais, tu t'abonnes et tout, mais en fait, à un moment donné, tu dis, ok, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça m'apporte quelque chose, et c'est pas un jugement sur la personne qui est derrière le contenu, parce qu'elle doit sûrement s'adresser à d'autres, mais juste toi, aujourd'hui, dans le contexte de ta vie, est-ce que c'est quelque chose qui va te nourrir, en fait, d'une certaine façon. Et ouais, je pense que non, c'est hyper important. Donc faites ce petit exercice après l'écoute de ce podcast. Faites le tri dans vos abonnements.
C'est hyper important, parce qu'au final, c'est pour ça aussi que tu te rends compte qu'il y a des personnes qui s'éclatent sur les réseaux et d'autres un peu moins. Moi, par exemple, je fais un tri incroyable. Bon, le compte de Marc ne suit quasiment personne, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Sur mon personnage, je suis à peu près 1000 personnes. C'est pas grand-chose par rapport à tous les comptes que je connais, mais ça suffit, en fait.
C'est
que ces personnes qui potentiellement vont m'apporter des images, vont m'apporter du contenu, ne vont pas me polluer, ne vont pas m'apporter quelque chose qui va m'inquiéter, qui va me faire réagir en mode « mais c'est quoi ce gros raciste ?» ou « c'est quoi ci ?» ou « c'est quoi ça ?» ou « waouh, encore une baraque de ouf, faire part en vacances, ça fait 4 fois », on veut pas de ça, on veut pas ces sentiments-là, donc...
Ouais, non, c'est hyper important. Je pense qu'il y a vraiment un environnement à se créer, comme tu te crées un environnement social et tout, tu vois. Ça fait partie du truc, même si c'est pas des gens que tu connais personnellement.
Un environnement digital safe.
Ouais, c'est ça, un environnement digital sain, c'est ça. Mais merci beaucoup pour cette discussion. Ça fait déjà 1 heure, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes.
Ouais,
c'est un délire, comme d'habitude, à chaque fois on se le dit. Merci beaucoup pour ce partage.
Merci à vous.
On a vraiment discuté comme autour d'un café. Vous étiez avec nous un petit peu à table avec
notre bon café.
Voilà, avec notre bon café bien chaud. Et puis, ben, n'hésitez pas à retrouver Ali sur les réseaux. De toute façon, tout sera dans les informations de ce podcast.
Merci à vous d'avoir écouté ce super podcast.
Bah, j'espère que ça vous aura inspiré d'une certaine façon. Et puis nous, on vous dit à très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode.
À la semaine prochaine.
N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute.
À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.